Shalom, shalom, likulam. Et on revient dans notre étude après cet intermède chanoukatique, intermède insoutenable. Mais ça y est, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes arrivés à une période où ça y est, maintenant on va devoir, si jusqu'à présent on a pu passer sur des périodes de 300 ans par cours, eh bien aujourd'hui, ça y est, c'est terminé. On va devoir se concentrer sur des périodes beaucoup plus petites parce que, eh bien, la transmission de la Kabbalah, tout comme la transmission de Torah Taniglé, prend des proportions énormes. Et donc, on va devoir se concentrer sur plusieurs chachamim qui vont être les chachamim qui vont, eh bien, porter l'enseignement de la Kabbalah. Nous sommes dans l'avènement de ce qu'on appelle les Rishonim. Et donc, pour bien commencer notre étude, eh bien, il nous faut absolument comprendre comment a commencé l'univers des Rishonim. C'est-à-dire, à partir de quand on peut parler véritablement de Rishonim. Eh bien, l'histoire nous raconte que le passage des Géonim aux Rishonim se passe dans les années 990. Eh oui, l'histoire est racontée par un chacham qui s'appelle Avraham ibn David. Et Avraham ibn David nous raconte dans son livre Sefer HaKabbalah, comme quoi on n'aurait pas pu trouver mieux. Sefer HaKabbalah, alors Rabbi Avraham ibn David, on l'appelle également Ra'avad HaRishon. Ce n'est pas le Ra'avad qu'on connaît quand on étudie le Rambam, mais c'est un précédent. Mais bon, l'homme chané. Il écrit dans le livre Sefer HaKabbalah comment on est arrivé à l'époque des Rishonim. On nous raconte une histoire comme quoi il y avait dans la ville de Bari, en Italie, eh bien, quatre Chachamim, ils sont montés dans un bateau et qui voulaient partir vers le plus Eretz Israël, tout ça. Et ce bateau a été piraté. Et finalement, eh bien, lorsque les quatre Chachamim, qui n'étaient autres que Rabbi Hushiel, c'était le père de Rabbeinu Hananel, également Rabbi Moshe ben Chanor, avec sa femme et son fils Rabbi Chanor, et également Rabbi Shemaria ben Elchanan, et le quatrième rabbin, on ne sait pas vraiment qui c'est. Quoi qu'il en soit, eh bien, le bateau a été piraté, le commandant des pirates a essayé de s'approprier la femme de Rabbi Moshe, qui a préféré se jeter à l'eau. Et finalement, les rabbanim qui sont restés sur le bateau ont été vendus, chacun dans des ports différents, vendus comme esclaves. Eh bien, vous avez un premier qui a été vendu à Alexandrie en Égypte, un autre qui a été vendu à Kairouan en Tunisie, et également à Cordova en Espagne, à Cordoue. Et finalement, la communauté juive de chacune de ces villes, que ce soit Alexandrie, Kairouan ou Cordoue, ont racheté la liberté de ces trois chachamim, parce qu'on a dit le quatrième, on ne sait pas trop qui c'est et où ça s'est passé, mais en tout cas, les trois premiers, ils ont été rachetés, et donc, ils ont mis en place, parce qu'ils ont été rachetés, ils ont été reconnus comme étant des grands, grands talmidei chachamim, et donc, ils mettent en place l'avènement de la Torah, alors que ce soit à Alexandrie, ça il y avait déjà, mais surtout à Kairouan et à Cordoue, et donc dans le monde de l'Afrique du Nord et dans le monde de Sfarad, de l'Espagne. Et c'est là que va commencer l'époque des Rishonim. Alors les Rishonim, quand on parle de la Halakha, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais quand on parle de la Halakha, c'est là qu'on va avoir la plus grande production de textes halakhiques, c'est l'époque des Rishonim. Eh bien, il faut savoir que ces mêmes Chachamim qui vont être les producteurs de la Halakha sont également ceux qui vont transmettre Torah à Kabbalah. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet et commençons par celui qui est peut-être le plus éloigné pour nous d'un rabbin. Eh oui, Parce que quand on parle rabbin, on ne parle pas forcément ramatkal. Eh oui, quand on parle rabbin, on ne parle pas forcément chef d'état-major. On ne parle pas chef de guerre. On ne parle pas non plus grand vizir. Eh oui, et j'aimerais vous montrer ici la personne avec qui nous allons commencer notre étude. Il est là. C'est lui. Bon, il est impossible de savoir s'il ressemblait vraiment à ça ou pas. Hein. Évidemment, ça c'est pour la BD. Vous avez ici la BD de Rabbi Shmuel à Nagid. Et c'est parti. Et c'est parti, nous lançons notre étude ce matin avec Rabbi Shmuel à Nagid. Shmuel à Nagid, c'est les années 993 à 1056, donc on est vraiment au tout début du 11e siècle, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Rabbi Shmuel à Nagid, c'est un vrai mekoubal dans le sens où c'est un tout. C'est-à-dire qu'on l'a déjà souvent expliqué, pour la Torah Takabala, il n'y a pas de chiloukim. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Shmuel HaNagid, c'est mamash, un tout. Non seulement c'est un posek halakha incroyable, en plus de ça, c'est quelqu'un qui connaît tous les éléments de langage de l'hébreu, mais en plus de ça, il va être le plus grand païtan de son époque. Et évidemment, il est également complètement impliqué dans la vie de Grenade, la vie de la ville dans laquelle il va être. Et donc, les amis, de quoi on est en train de parler ? On est en train de parler du début de ce qu'on appelle Torah Zahav Shebi Sfarad, l'âge d'or du judaïsme d'Espagne, Shmuel HaNagid. Alors, de quoi on est en train de parler ? Évidemment, on essaie de comprendre un petit peu qui est le bonhomme. Shmuel HaNagid va être donc grand vizir. Grand vizir, mais comment est-ce possible ? C'est-à-dire que c'est lui le premier ministre. Le premier ministre de cet empire, ces petits royaumes, hein, on ne va pas y citer non plus, de ces petits royaumes, lui, il est à Grenade. Il est à Grenade et il a été choisi comme grand vizir. Pourquoi il est choisi comme grand vizir ? Eh bien, pour une raison très simple, le patron de Grenade à ce moment-là, eh bien, il s'appelle tout simplement Émir Khabous, et lui, Abbas en français, et lui, il aime beaucoup les conseils de Shmuel HaNagid. Et donc Shmuel HaNagid va, pendant près de 50 ans, non allez, j'exagère, 35 ans, va diriger le peuple juif en Espagne, mais il va montrer que la Torah n'est pas que sur un sujet particulier, mais touche à tous les sujets de la vie. Et ça, eh bien les amis, c'est Torah Takabala. Torah Takabala vient nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas le grand rabbin du monde, mais bel et bien le maître du monde. Et tous les sujets de la vie sont donc sous sa domination. Bien sûr, sous l'islam. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, nous sommes sous domination musulmane à ce moment-là en Espagne. La Reconquista n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire, donc on est, oui, sous domination musulmane. Il y a eu, alors attention, hein, c'est pas tous les émirs qui sont sympathiques avec les juifs. Il y a eu, juste avant l'émir qui donne à Shmuel HaNagid sa position, des gens terribles qui ont massacré les juifs des villes environnantes et de Grenade. Et il y en aura d'autres après. Hein, donc, c'est pas, faut pas croire que le monde arabe a été sympathique avec le peuple juif. Mais il y a eu une période où, eh bien, on a pu dévoiler la grandeur de ce personnage, Shmuel HaNagid. Et Shmuel HaNagid va nous dire une phrase à sa mort. Et en fait, sa phrase qui va le dire à sa mort va résumer quelque peu, eh bien, tout l'enseignement qu'il pouvait avoir. Je vais vous la lire. Cette phrase nous dit comme cela. Je cite. Je te quitte, Grenade. Oui, je te quitte, Grenade, je vais mourir. Ve Almabra, c'est Grenade et Almabra, c'était les deux villes dans lesquelles il était. Car ces villes-là ont été le symbole de l'unité. Il y a eu là-bas des chrétiens, il y a eu là-bas des musulmans, mais là-bas, nous avons réussi à dévoiler Torat Emet, Torah Shel Hakol, la Torah du tout. Ve'ineni olech lemakom alonoda, et je ne m'en vais pas vers un endroit inconnu, ela liyerushalayim shel mala, mekom shel Torat Hakol. Et je m'en vais, non pas dans un endroit inconnu, mais dans la Jérusalem d'en haut, qui est l'endroit de la Torah du tout. Les amis de cela qu'on parle, Shmuel HaNagid est le premier qui va ouvrir la voie d'une Torah globale. Et ça, c'est le grand, grand, grand chidouche de cette période-là. C'est une période qui ne va pas rester longtemps, hein. Je précise encore une fois, Torah Zahav chez Bitzfarad, c'est 150 ans, pas plus. Mais c'est une période où les Chachamim en Espagne vont montrer la grandeur d'un tout. Et ça, c'est le grand chidouche de la Kabbalah de cette époque-là. Jusqu'à présent, les Chachamim étaient attachés à tel ou tel domaine de prédilection. Même Chachmei Kabbalah qu'on a vu jusqu'à maintenant, certains étaient païtanim, certains étaient mathématiciens, certains, mais la notion d'appartenir au tout, c'est quelque chose qui va véritablement grandir à ce moment-là. Alors, c'est vrai pour l'Espagne, mais qu'en est-il de Metz, Ir HaKodesh ? Oui, vous m'avez bien entendu. Qu'en est-il de Metz, la ville qui a vu naître Ethan Fison? Ah, c'est pas rien. La ville qui a fait grandir Ethan Fison. À Metz, on ajoute. Eh oui, vous savez, la grandeur des Chachmei Mekoubalim, c'est de rendre le sourire à des gens qui sont tristes. Et donc, on a tous la chance, après mon cours qui sert de mise en appétit, on a la chance d'avoir après le cours du Rav Cherki. Et le Rav Cherki, un jour, m'a rendu le sourire après me l'avoir lui-même enlevé. Et c'était l'anecdote il y a 18 ans, 19 ans, qu'est-ce que je raconte ? Nous étions, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. J'avais à peine 18 ans et je venais d'arriver en Israël et nous étions au Machon Meir et on avait un cours très particulier du Rav Cherki pour les Français, mais en hébreu. On était trois. On était trois. Les deux premiers, ils avaient fait leur alia avec leur famille. Et le troisième, c'était moi. Et je galérais parce que je ne comprenais pas tout très, 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 très bien. Mais j'avais décidé de m'accrocher et donc de rester. Au bout de 6 mois, on arrive juste avant Rosh Chodesh Nissan, juste avant les vacances de Pessah. Et le Rav nous dit, on étudiait ensemble Ilchot Melachim du Rambam en hébreu. Pour les Français. Bekitzur, et le Rav nous dit à tous les trois, alors qui n'a donc rien compris de ces 6 mois d'enseignement et retourne en Gaule pour Pessah ? Alors, ce n'était pas très fair-play parce que les deux autres, leur famille était déjà en Israël, donc eux, ils sont restés en Israël, et moi, je lève timidement la main en disant, moi. Et donc, mon sourire s'enlève de mon visage. Mais à ce moment-là, le Rav me dit, non, mais toi, c'est permis pour toi. Je dis, comment ça, c'est permis pour moi? Il dit, oui, toi, on a étudié ensemble les lois du Rambam. Et le Rambam nous a enseigné quelles sont les trois raisons pour lesquelles on a le droit de quitter Eretz Israël. Soit parce qu'il y a la famine, soit parce qu'il n'y a pas de femme juive en Israël, il faut que tu te maries, soit parce que tu ne peux pas étudier ou faire une Torah en Eretz Israël. Je lui dis, oui, mais quel rapport ? Il dit, toi, tu vas à Metz. Or, à Metz, il y a une Torah qu'on ne peut faire que là-bas. Eh oui, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a une bracha des Birkot HaShachar qu'on ne dit que à Metz. Ce n'est pas une blague. Hein. Ça a été mis en place par Rabbi Eliezer de Metz au XIIe siècle. Nous disons à Metz, après Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Isha O Shasani Kirtzono, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Magbia Shefalim. Bracha qui a été mise en place au XIIe siècle, certains disent parce qu'il y a eu une épidémie, certains disent parce qu'il y a eu un pogrom et qu'on a été sauvés. Quoi qu'il en soit, c'est une bracha qu'on dit que là-bas. Donc il m'a dit, voilà, toi tu peux y aller, puisque c'est un endroit où il n'y a que là-bas que tu peux faire cette bracha-là. Donc c'est bon. Et donc il m'a rendu le sourire, Zé Atov Shel Chachmei Ha'emet, qui savent rendre le sourire dans toutes les situations. Quoi qu'il en soit, tout ça pour présenter la ville de Metz, parce que la ville de Metz, elle n'a pas vu voir naître Ethan Fizon, ça on s'en fiche. Par contre, elle a vu naître quelqu'un d'autre, quelqu'un d'énorme, quelqu'un qui va être le leader de la Torah et donc de Torah Takabala également dans le monde ashkénaze. Et oui, car c'est la première fois, ça y est, à partir des années 950-1000, qu'on va parler de séparation entre Ashkenaz et Sépharad. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas, Ashkenaz et Sépharad. Les géonymes, personne ne s'est posé la question si c'était Sfarad ou pas Sfarad. Eretz Israël, c'est Eretz Israël, Babylone, c'est Babylone, puis c'est tout. Mais là, ça y est, pour la première fois, on parle d'Ashkenaz et de Sépharad. Donc les Sépharad, on a dit, pour l'instant, portés par Shmuel Hanagid, et le monde Ashkenaz va être porté par un homme qui est né à Metz, mais qui va grandir en Allemagne, à Warmainza, Vemagenza. Il s'appelle Rabbeinu Gershom Meor Agola. Rabbeinu Gershom. Et Rabbeinu Gershom, eh bien, on le connaît particulièrement pour son commentaire du Talmud. On trouve les Hagaot de Rabbeinu Gershom dans toutes les, et dans toutes les versions du Talmud qui sont imprimées en mode Tvus Vilna. Donc, on connaît Rabbeinu Gershom Meor Agola pour son commentaire du Talmud. On le connaît moins, par contre, pour ses Slichot. C'est Slichot et c'est Piyutim. Le Machal, quand il va nous parler de Jérusalem, lorsqu'il nous dit Aïr Kodesh ve Amechozot, Ayule Kherpa ve Lebazot, ve Chol Machmadea Tevuot ve Genuzot, ve En Shiur Rak Torah Azot. Ça, c'est ce que l'on va dire dans les Slichot juste avant Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Il y a une nouvelle façon de piyouter, ce sont les rimes. On rime. C'est-à-dire quoi on rime ? Eh bien, on veut dire que chaque phrase est rattachée à celle d'avant. C'est quoi une rime ? Nous explique Rabbeinu Gershom Meor Agola que ça veut dire que chaque morceau du texte doit être rattaché à celui d'avant, il rime avec la phrase d'avant, et il est rattaché avec celui d'après parce qu'il rime avec la phrase d'après. En d'autres termes, il s'agit ici également du tout. Mais attendez, du tout ? Si je vous disais que Rabbeinu Gershom, il est le pont entre deux rabbins. Il a un maître et il a également un élève. Ben, jusque-là, rien d'extraordinaire. Vous connaissez peut-être son élève. Alors, je vous avoue, ce n'est pas son seul élève. Et d'ailleurs, il n'a été que son élève très peu de temps parce que Rabbeinu Gershom est mort assez rapidement après que cet élève soit devenu élève. Mais tout de même, il a étudié dans le début de sa vie chez Rabbeinu Gershom. C'est qui cet élève que tout le monde connaît et qui sera l'objet de notre cours en entier la semaine prochaine? Il s'appelle Rabbeinu Shlomo Yitzraki, ou alors plus connu sous le nom de Rashi. Eh oui! Donc la semaine prochaine, tout le cours sera sur Rashi, ou alors sur Rabbi Yehuda Halevi. Je ferai plouf plouf pour savoir lequel on fait en premier. Ils sont plus ou moins vraiment de la même époque, donc on fera plouf plouf. Il y aura un cours sur Rabbi Yehuda Halevi et un cours sur Rashi, parce qu'ils méritent largement qu'on s'y arrête. Mais quoi qu'il en soit, Rashi d'un côté et le Rav de Rabbeinu Gershom Meor Agola s'appelle Rabbeinu Moshe Léon Tin. C'est qui celui-là? Et là, alors Rabbeinu Moshe, Rabbeinu Yehuda, Yehuda Cohen, Léon Tin. Ok. Soyons honnêtes. Quelqu'un a entendu parler de lui? Hein? Non, soyez honnêtes. Non, personne n'a entendu parler de lui. Autant Rashi, ça passe. Autant Rabbeinu Gershom Meor Agola, peut-être que ça passe. Mais Rabbeinu Yehuda Cohen, Léon Tin, ça passe pas. Pourtant, Rabbeinu Léontine et Rashi ont un point commun tous les deux. Et il semblerait que Rabbeinu Gershom fait le lien. C'est quoi le point commun? Eh bien, les deux vont utiliser des langues étrangères pour nous aider à comprendre la Torah. Rashi, évidemment. Rashi n'arrête pas de nous utiliser des langues étrangères à chaque fois qu'il peut utiliser le français. Il utilise le français. Mais pas que. Par exemple, d'où on sait que dans les tefilines, il y a quatre compartiments? Dans les tefilines, va y le totafot ben enecha. Et on sait qu'il y a quatre parchemins. Enfin, quatre parchemins. Pourquoi on a quatre? Eh bien, tout simplement parce que, nous dit Rashi, totafot, le mot totafot, c'est tout. Ça ressemble à tout et put. Totaput. Et tout, en africain, c'est deux. Et put, en cananéen, c'est deux. Donc, deux et deux, quatre. OK. Eh bien, ça, on a trouvé les vestiges chez Rabbeinu Yehuda HaKohen Léontine. Regardez ce chidouche incroyable de Rabbeinu Yehuda HaKohen. Vous savez, les Kohanim. D'accord ? Les Kohanim, ils bénissent le peuple juif tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans la bracha ? Dans la bracha, ils disent « Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav. » Est-ce que je peux écrire le nom de Rabbeinu Léontine ? Alors, c'est ça le truc. Je ne sais pas comment on va écrire ça en italien. En vérité, Léon, c'est Léon, L-E-O-N-E, et Tin, je ne sais pas, moi je l'aurais écrit comme ça se prononce, T-I-N,
T-I-N-E. Ou en hébreu.
Ah, en hébreu, comme ça se prononce aussi. Lamed, Yud, Aleph, Vav, Nun, Tet, Yud, Nun, Léontine. Alors, c'est pas très important de savoir comment ça s'écrit. C'est des noms qui sont l'oasis de Bechol Mikré. Quoi qu'il en soit, nous dit Rabbeinu Yolantin, il y a un Cohen ici qui nous écoute ? Hein, on n'a pas de Cohen. Hein. Eh bien, les Kohanim, ils bénissent le peuple juif tous les matins. Et comment ils bénissent ? Baruch atah Hashem, Elokim Yerholam, Shakitcham, Mitzvota, Bebirkato Shel Aaron, Vetzimana, Barech et Amo Israël, Be'ahava. C'est-à-dire que les Kohanim doivent être pleins d'amour pour bénir les bnei Israël. Minayin. D'où on sait que les Kohanim doivent être pleins d'amour pour bénir les bnei Israël. Omer, Rabbeinu Léontine, comment ça, quelle question? Qui katouf ba Torah, lorsqu'on parle de Birkat Kohanim dans la Torah, dans Parashat Baalotecha, katouf ba Pasuk, Amor Lahem. Venu dire Rabbeinu Léontine, Amor Beitalkit, Ze Ahava. Donc, si a marqué Amor Lahem, eh bien, ça veut dire que ça doit être Be'ahava. Vous voyez que cette façon d'utiliser tout pour essayer de comprendre la Torah, eh bien, c'est l'apanage de Torah Takabala. Oui, David.
Amor en français, c'est pas amour.
Oui, mais il n'était pas français, il était italien. Et puis, Chutzmise, que quand on parle de français...
Qu'est-ce qu'il a fait à Metz?
Non, vous n'avez pas suivi Rabbi Isaï. Rabbeinu Gershom, il est né à Metz. Rabbeinu Léontine, il est italien.
Ah, donc Rabbeinu Gershon est parti en Italie.
Ah, oui. Ah, bah, alors, ça, je vais y arriver dans deux secondes, mais Rabbeinu Gershon, il n'a pas arrêté de voyager. Quoi qu'il en soit, Rabbeinu Léontine, il dit Amor Lahem. Maintenant, tu veux du français? Il y a marqué Ka'amour. Ah, Ka'amour, ça passe. Ça a l'air. Quoi qu'il en soit, voyez ici cette façon d'enseigner. Et donc, Rabbeinu Gershon, Meor HaGola, va être très connu, non pas pour son enseignement de la Kabbalah, mais pour ses takanot. Eh oui, takanot et surtout le cherem de Rabbeinu Gershon, où il va interdire la polygamie. On interdit la polygamie. Alors, il y a derrière le cherem de Rabbeinu Gershon, évidemment, des raisons halachiques très claires, des raisons sociologiques très claires, des raisons morales très claires. Mais il y a aussi des raisons de Torah ta Kabbalah de manière très profonde. Arrête, n'oublions pas une chose. Parmi les Avot, celui qui est Tushbarta de Avahan, celui qui est Ameshubar Sheba Avot, eh bien, c'est Yitzhak Avinu. Et pourquoi il est le Meshubar de Avot? Parce que Yitzhak, il est Echad. Il avait un seul nom, alors que Avraham est devenu Avraham, que Yaakov est devenu Israël. Yitzhak, il est Yitzhak. Yitzhak, il n'est resté que dans un seul pays. Il est resté en Eretz Israël, alors que Avraham est parti de Haran en Israël, Égypte. Yaakov est parti à Haran et revenu en Égypte. Yitzhak est resté en Eretz Israël. Et Yitzhak n'a qu'une seule femme. Alors que Avraham aura une concubine Agar et ensuite une deuxième femme Ketura, alors que Yaakov aura Rachel, Léa, Zilpa, Bilha, eh bien Yitzhak a que Rivka. En d'autres termes, Yitzhak représente l'unité. Echad. Rabbeinu Gershon met en rigola derrière les raisons halachiques du Cherem de Rabbeinu Gershon, il veut réapprendre au peuple juif à être Echad. Et il est évident que se marier avec une femme, c'est véritablement comprendre la notion de Achdout, de Echad qu'il y a entre deux opposés qui se réunissent. J'ai pas besoin de débattre là-dessus longtemps. Comprendre que lorsqu'un homme a deux, trois, quatre femmes, jusqu'au maximum permis pour quelqu'un qui n'est pas roi, eh bien, vous comprenez que c'est quand même divisé sa neshama. Et donc, la monogamie nous rattache au monothéisme. Alors, on n'y est pas encore, mais beaucoup plus tard, on étudiera les écrits, par exemple, d'un autre grand rabbin qui s'appelle Rabbi Eliyahu Dividas. Rabbi Eliyahu Dividas qui va écrire dans son livre Reshit Chochma, Mi shelo ekir ahavat isha, lo yechol leov et akadosh baruch hu. Celui qui ne connaît pas l'amour de sa femme, eh bien, ne peut pas aimer Dieu. Car la relation qui unit l'homme et sa femme est la relation qui unit l'homme à akadosh baruch hu. Donc, eh bien, ici, Rabbeinu Gershon Meragola, grâce à son cherem de Rabbeinu Gershon, au-delà de toutes les concessions halachiques, eh bien, ramène la dimension de Achdout. Tov, az Shmuel Hanagid d'un côté, Rabbeinu Gershon Meragola de l'autre, mais ça ne s'arrête pas là. Tor Hazav continue et nous amène devant l'un des plus grands maîtres du XIe siècle, Mamash, Aval Mamesh. Un des plus grands maîtres du XIe siècle et le plus fou dans cette histoire-là. Vous savez, quand on parle des Chachmim et Koubalim, très souvent, on est très étonné de par leur jeunesse. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant Gil Arbaïm, et pourtant les plus grands maîtres de la Kabbalah, ils sont morts avant leurs 40 ans. Que ce soit le Ramchal, le Harizal. C'est assez étonnant quand même de voir la jeunesse de ces tzadikim-là, comme si leur enseignement était tellement grand qu'il les surplombe complètement. Et bien là, le Rav dont j'aimerais vous parler maintenant, qui est clairement, mais alors clairement, hors compétition, quand on parle de Tor HaZahav Besfarad, c'est lui numéro un, numéro uno. Et ce numéro uno, eh ben, il ne vit pas longtemps. Il ne vit pas longtemps du tout. Ben non. Il va vivre 37 ans. Il s'appelle Rabbeinu. On va voir s'il y a des gens qui connaissent. Mais encore une fois, je précise, Zéhou. C'est-à-dire, c'est le plus grand taulier de son époque. Rabbeinu Shlomo Ibn. Ça veut dire Ben. Yalla, quelqu'un va dire. Comment?
Maïmonide.
Ezra.
Ah putain, Maïmonide.
Virol.
Ezra.
Ben Ezra. Top. Alors allons-y. Il y a eu trois avis qui ont été donnés. Maïmonide s'appelle Rabbi Moshe. Donc j'ai commencé en disant Rabbi Shlomo. Donc ça ne peut pas être Maïmonide.
Virol.
Ensuite, j'ai dit Rabbi Shlomo. Donc ce n'est pas Rabbi Avraham Ibn Ezra. Quoique il y avait un autre Ibn Ezra qui s'appelle Rabbi Moshe Ibn Ezra, mais ce n'est pas lui non plus. Non, effectivement, je crois que c'est Félicia qui a dit Rabbi Shlomo ibn Gabirol. Nachon. Rabbeinu Shlomo ibn Gabirol. Rabotai, en. Il n'y a rien à dire. Rabbeinu Shlomo ibn Gabirol va naître à Malaga, il va vivre à Cordou. Et il est Pachout, le patron de chez les patrons. C'est-à-dire que Rabbi Shlomo, il est Gadol, Ben Iglé, Ben Istar, ça c'est une évidence. Mais il va tout simplement écrire le livre Keter Malchut. Et alors là, nous avons pour la première fois un Rav qui va tout simplement reprendre toutes les Massorot. Toutes les Massorot depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, pour les faire soit correspondre, soit montrer la différence avec l'enseignement philosophique qui trouve un regain au XIe et au XIIe siècle de la philosophie antique grecque. Rabbeinu Shlomo ibn Gabirol prend toutes nos Massorot et va dire là où on est d'accord et là où on n'est pas d'accord. C'est un travail de titan. Où il va tout simplement montrer à quel point Torah ta Kabbalah, Torah ta Nistar chez la Yahadout n'a absolument rien à envier. Enfin, on est bien au-delà de ce qui a été produit dans la culture occidentale. Il va ensuite écrire un autre livre incroyable qui s'appelle, j'ai oublié. Attendez, je vérifie. Ah voilà, il s'appelle Sefer Mekor Chaim, qui est un livre de métaphysique. Tout simplement, il est un des seuls rabbins à avoir écrit un livre de métaphysique. Il y aura un de ses, pas descendant au niveau biologique, mais un de ses élèves, beaucoup plus tard, 400 ans plus tard, qui s'appelle Rabbeinu Chisdaï Kreskas, qui lui aussi va écrire un livre de métaphysique, Or Hashem, mais bon, on n'y est pas encore. Bekitzur, Rabbeinu Shlomo Ibn Gabirol. Tov, az Rabbeinu Shlomo Ibn Gabirol, on a dit... Tor Azav, chez Bisfarad, Mamash, il n'y a rien à dire. La métaphysique est la comparaison de notre enseignement avec l'enseignement des Goïm. Alors, vous avez remarqué que je suis en train d'essayer de faire un ping-pong entre, justement, les rabbanim dans le monde séfarad et dans le monde ashkenaz, parce que, justement, ce sont ces deux dimensions qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc, on a parlé de Shmuel HaNagid et donc de Rabbeinu Gershom Meor HaGola, on a parlé de Rabbeinu Shlomo Ibn Gabirol. Eh bien, ici, nous parlons de Rabbeinu Yitzhak Ayarchi. Rabbeinu Yitzhak Ayarchi. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de lui? Non, hein? Pourtant, tout le monde a entendu parler de lui. Mais d'abord, venez, on va essayer de comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. C'est quoi ce nom-là? Ayarchi, le lunaire. Rabbi Yitzhak de la lune. Est-ce que c'est parce qu'il avait la tête dans la lune? Est-ce que parce que c'était un astronome? Pas du tout. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Ayarchi parce qu'il habitait à 21 km de Montpellier, dans la ville de Lunel. Eh oui, donc Lunel, Lune, Yareach, Yarchi, Rabbi Yitzhak Ayarchi. Tov, Saïder, il est né à Lunel, il a grandi à Lunel, mais à un moment donné, avec sa femme, ils partent de Lunel. Ils partent de Lunel parce qu'ils ont reçu la possibilité, et ça c'est un truc qui n'existait pas à l'époque, mais il était bien vu des seigneurs de la région, et donc il reçoit un lopin de terre. C'est complètement inédit, les juifs ne reçoivent pas de terre, ça n'existe pas. Mais lui il reçoit un lopin de terre en Champagne. Et donc... il va aller s'installer dans la ville de Troïche, ou alors en français, Troyes. Et il va commencer à faire du vin. Bon, ben non, c'est pas Rashi, mais c'est son papa. Rabbi Yitzhak Ayarchi, c'est le fameux Yitzhaki de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi s'appelle Rabbi Shlomo Yitzhaki. Yitzhaki, ça veut dire fils de Yitzhak. Et donc, ce Yitzhak, en l'occurrence, c'est Rabbi Yitzhak Ayarchi. Et donc, Rabbi Yitzhak Ayarchi va être le véritable Rav de Rashi. Pashut, il est celui qui va le former et commence à lui apprendre toute sa façon à lui d'étudier la Torah. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, va nous expliquer dans son livre Shem HaGedolim que toute la Torah qui était concentrée dans le Talmud, eh bien, s'est retrouvée sur les paroles de Rabbi Yitzhak Hayarchi HaTzarfati. Les amis, c'est de cela dont on parle. On parle de l'homme qui va tout simplement permettre au dévoilement de Rashi dans le monde. Rabbi Yitzhak Hayarchi qui rassemblait en lui tout l'enseignement talmudique et la halakha et évidemment la Haggadah également. Ça fait du beau monde tout ça. Nachon, ça fait du beau monde tout ça. Il y a un rabbin que je n'ai pas mis dans la liste ici. Parce que, bien que certainement érudit en Torah ta Kabbalah, eh bien, il ne nous a rien laissé de Torah ta Kabbalah. Mais par contre, on ne peut pas étudier la halakha sans lui. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Elfasi. Et Rabbi Yitzhak Elfasi, on le connaît sous le nom du Rif. Et Rif, lui, on n'a rien qui est resté de lui au niveau de Kabbalah. Par contre, on sait qu'il était épris de Kabbalah puisque son élève, et c'est de lui dont je voudrais vous parler là maintenant, son élève était évidemment Baniglé, mais il a été également énormément Banistar. Et cet élève s'appelle Rabbeinu Yosef Berabbi Meir Alevi Ibn Miges. Dans le monde de la Torah, on l'appelle Ari Miges. Et chez les Ashkenazim, on l'appelle Ari Migash. Parce qu'ils ne savaient pas, les Ashkenazim, que Miges, ça se disait Miges. Ils ont lu Mem Yud Gimel Aleph Shin, ils ont dit Migash. Alors qu'en Espagne, ça se disait Miges. Donc c'est Rabbeinu Yosef Berabbi Meir Alevi Ibn Miges. Et donc, Ari Miges, lui, par contre, il va prendre toute la Torah du Rif et va en sortir les décisions kabbalistiques. Comme par exemple, l'importance de l'astronomie. Comme par exemple, l'importance de comprendre que le monde qui nous entoure, le ciel qui nous entoure, alors n'est évidemment pas déterminant pour notre identité, on ne parle pas d'astrologie, mais on parle d'astronomie qui va nous permettre de comprendre notre réalité dans le monde. Et donc pour ça, il faut comprendre le monde qui nous entoure. Ça aussi, c'est un enseignement fondamental. Et si on a parlé d'Uri Miges, eh bien, on ne peut pas terminer Tor HaZahav chez Bisfarad sans parler de lui. Il est l'un des plus grands de cette génération-là. Alors, il vient conclure Tor HaZahav puisqu'il meurt en 1167. Et c'est plus ou moins acté que Tor HaZahav Bisfarad se termine dans les années 80 des années 1100. Donc, il est vraiment l'un des derniers de cette génération d'or de Sfarad. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il s'appelle Rabbeinu Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, Rabotai, Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est un must. Évidemment, d'abord, c'est un must si on veut comprendre la Torah. Si on veut comprendre un petit peu le commentaire de la Torah, on ne peut pas passer et on ne peut pas taire Rabbeinu Avraham Ibn Ezra. Mais Rabbi Avraham Ibn Ezra, d'abord, il a eu une vie extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Rien n'allait au niveau de la parnassa, c'était très très dur, des maladies, des morts dans sa famille, enfin vraiment une vie difficile, Rabbeinu Avraham. Personne n'envie la vie de Rabbi Avraham Ben Ezra. Sa Torah est extraordinaire, mais franchement, sa vie, oy vavoy. Et peut-être justement parce qu'il a tellement souffert dans sa vie, il n'a peur de rien et il dit tout. Et franchement, le commentaire de Rabbi Avraham Ben Ezra, des fois, tu as l'impression que Rashi, Ramban, ils ont dit des trucs. Et Ben Ezra, il vient dire n'importe quoi, c'est autre chose. Vraiment, Ibn Ezra n'a pas froid aux yeux. Ibn Ezra va nous expliquer que pour comprendre la Torah, il faut 5 étapes pour comprendre la Torah. Quelles sont ces 5 étapes ? Que évidemment, on pourra pouvoir faire correspondre à ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Ve'yechida. Quelles sont ces 5 dimensions ? La première de ces 5 dimensions, la Nefesh, nous dit Rabbeinu Avraham ben Ezra, tout ce qui est extérieur à la Torah, c'est-à-dire les sciences, ça peut être les mathématiques, ça peut être ce que vous voulez, tout ce qui est extérieur à la Torah est nécessaire pour bien comprendre la Torah, mais ne peuvent pas venir supplanter le pshat. D'abord, il y a le sens littéral du texte. Et Rabbeinu Avraham ben Ezra est un grand pshatiste. Donc il dit, c'est très bien, tous les enseignements extérieurs, machin, tout ça, c'est très bien, mais d'abord, la base. D'abord, le pshat. Deuxième étape de Rabbi Avraham ben Ezra, il y a une dimension qui a été annulée. À l'époque de Rabbeinu Avraham ben Ezra, les Karaïms sont très puissants, et il dit, les Karaïms, ils ont annulé la Torah orale. Rabbeinu Avraham ben Ezra nous dit, « Haruach !» Sheyesh batorah, c'est la Torah shebealpe. La Torah orale qui se transmet de génération en génération et de rabbin vivant à rabbin vivant, c'est l'esprit de la Torah. Donc le nefesh, c'est le pshat, vers ruach, c'est la Torah shebealpe. On ne peut pas faire sans. Et donc ça ne dérangera pas du tout Rabbi Avraham ben Ezra dire très souvent que son chidouche qu'il dit, il est marqué nulle part, je me tiens oralement de mes maîtres. Kacha, t'es pas content ? Tant pis pour toi. Troisième dimension pour Rabbi Avraham ben Ezra, la neshama de la Torah, c'est qu'elle est inscrite dans ce monde. Comme la neshama est descendue dans un corps et elle n'est pas restée dans le monde des neshamot, eh bien la Torah n'est pas une allégorie telle que les chrétiens commencent à le dire d'un peu partout. N'oubliez pas que Rabbi Avraham ben Ezra, certes, vit plus dans le monde musulman, mais on est à une époque où le christianisme est en train d'essayer de commencer la reconquista. On est en train de commencer à reprendre du terrain. Pour les chrétiens, toute la Torah n'est qu'allégorie. On dit Rabbi Avraham ben Ezra, la Torah doit être ramenée, la Neshama doit être ramenée dans le corps, dans le concret. L'histoire de la Torah n'est pas une allégorie, c'est de la réalité. Quatrième point de Rabbi Avraham ben Ezra, de me dire la chose suivante. Les Perushim, il nous dit très souvent les Chachamim en Ashkenaz, c'est-à-dire les chachamim des terres ashkénaziques, des terres chrétiennes, prennent l'habitude de recopier les midrashim. C'est-à-dire très souvent, tu vas voir, même chez Rashi, il recopie très longuement le midrash. Il ne donne pas son avis c'est le midrash, alors il recopie le midrash. On dit Rabbeinu Avraham ben Ezra, quatrième étape, Achaya, il y a un lien qui fait vivre chacun d'entre nous et qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a pas de raison que tu recopies le Midrash. Arrête d'infantiliser les gens. Chaque personne a un lien de vie avec Dieu. Tu veux dire que le Midrash X ou Y, c'est lui qui va te donner la compréhension de ce qu'il faut savoir. Ne recopie pas le Midrash. Dis-lui où c'est marqué et qu'il aille lire tout seul. Arrête d'infantiliser les gens. Les gens sont des chachamim. Ou du moins, les gens peuvent le devenir si tu ne les infantilises pas. Et enfin, le dernier klal pour Rabbeinu Avraham ibn Ezra, c'est de dire que toute la Torah, toute la compréhension de Dieu dans son monde, c'est comme on dirait en mathématiques, un point qui est au centre du cercle. Vous savez quoi, un point qui est au centre du cercle, les amis ? Vous savez que lorsque vous avez un point, prenez un point et vous mettez un compas dessus et vous tournez le compas et vous faites un cercle, eh bien, tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Eh bien, nous dit Rabbi Avraham ben Ezra, si tu veux comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi, il faut que tu comprennes que la Torah, c'est Anekuda chez la Emtsa. Et que tout ce qui existe dans le monde est à équidistance de ce point central et puise sa force de ce point central. Zeh Yechida. C'est ce qui va rattacher chaque chose de la réalité à son centre, à son idéal et à son origine. Les amis, quand on parle de Shmuel HaNagid, de Rabbeinu Gershon, de Rabbeinu Shlomo Ibn Gabirol, de Rabbeinu Yitzhak Ayarchi, de Rabbeinu Arimigas, Amiges, et de Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, on parle de 150 ans de ce qu'on a appelé Tor HaZahav chez Bisfarad, mais en fait qui n'était pas que Bisfarad. C'est le début de Tkufat HaRishonim, où d'un côté, dans la Halakha, il y a une production incroyable, mais dans la Kabbalah, il y a une volonté de rediriger tous les enseignements vers Akol, Akol, tout est relié à une Nekuda centrale. Le fait que maintenant tout est relié à une Nekuda centrale, eh bien, c'est le grand enseignement de ces 150 ans qui vont permettre à des rachamim comme Rashi, comme Rabbi Yehuda Halevi, d'écrire parmi les œuvres les plus importantes du judaïsme. Mais ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Vous pouvez ouvrir vos micros.
Est-ce que vous pouvez faire une petite tavla avec les rabbinim de Sfarad, ceux qui commencent en Ashkenaz, quelque chose, et dire qui est le maître de qui?
Alors la vérité, c'est que ça existe.
C'est un peu difficile.
Je suis sûr que si on va, bon, je vais regarder, mais je suis sûr que si on va sur Google.
Google, ok.
Ouais, j'imagine, je vais regarder, mais parce que là, j'en
ai. Il y a quelque chose. Ça permettra de les placer, oui, oui. Et de voir qui est le maître de qui.
Oui, oui, non, mais c'est sûr que ça existe. Là, j'en ai cité que quatre, enfin, j'en ai cité oui. Cinq, six, mais y en a plein d'autres. Hein. Donc, okay. Nous, on essaye, encore une fois, d'abord, on ne peut pas citer tout le monde. Et deuxièmement, dans ce cours-là, on cite ceux qui vont être les principaux, qui vont avoir le plus d'influence.
Sheila. Jusqu'à Ibn Ezra, il y avait quand même des rabbins qui ont considéré que la Torah est centrale.
Oui, bien sûr. La majorité des rabbins pensaient que la Torah, c'est le centre de tout. Mais pour la majorité d'entre eux, la Torah était au centre et en fait, le reste ne nous intéressait pas. Pour Ibn Ezra, parce que la Torah, elle est au centre, tout le reste est à équidistance. D'accord. Oui.
Question de Yochevet, Miku.
Oui, Yochevet.
Oui, oui, Rav Eitan, je vous remercie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, repréciser le niveau Yechida?
Le niveau Yechida, c'est le point central. C'est-à-dire, c'est la particularité de Yochevet dans ce monde que personne d'autre ne peut remplacer.
Et donc, c'est cette dimension-là que le Rav Avraham
Ibn Ezra nous dit que la Torah, c'est la partie centrale et essentielle du monde. Et donc, tout le reste du monde n'est qu'un dérivé de cette partie centrale.
Question de Meira.
Dérivé ou la compréhension en fait du monde?
Autodavar.
Question de Meira, Malka.
Oui, Toda, Rav, je n'ai pas compris quand commence le partage entre les Sfaradim et les Ashkenazim, à quel moment? Qui est le début des Ashkenazes ou la fin des Sfarades?
Ou la fin des Sfarades?
Non, vous avez parlé que c'est alors. Non,
j'ai raconté l'histoire des quatre prisonniers. Et on admet que c'est assez arbitraire, hein, on admet que c'est là le point de départ du monde séfarade, du monde ashkénaze. De quoi on parle ? Cette agada-là, j'ai dit, c'est on parle de quatre rabbins qui finalement, dans leur péripétie, vont arriver dans les communautés d'Afrique du Nord et d'Espagne et vont être reconnus là-bas comme étant les patrons. Et donc, ils vont mettre en place des nouveaux centres de Torah qu'il n'y avait pas auparavant dans ces régions-là du monde. Et au même moment, on va avoir aussi des centres de Torah qui vont naître dans le monde ashkénaze, c'est-à-dire en France et en Allemagne. Et donc, à partir de là, puisque d'un côté, les yeshivot de Babylone n'ont plus d'influence véritable, et qu'il y a de nouveaux centres de Torah qui se lèvent en Espagne, en Afrique du Nord, en Allemagne, en France, eh bien, on passe dans un monde qui était centralisé autour de Babylone et d'Eretz Israël, à un monde où la Torah et la transmission vont être centralisées autour du pôle séfarade et du pôle ashkénaze. Il y a une région qui fait la connexion entre Sfarad et Ashkenaz, qui n'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs, ils sont ni Ashkenaz ni Sfarad, c'est ce qu'on appelle Chachmé Provence.
Alors qu'est-ce qu'ils sont ?
Eh bien, ils sont Chachmé Provence.
C'est-à-dire quoi ?
Ben, c'était les Chachamim de Provence, la Provence, vous connaissez la Provence.
Oui, mais ils vont dans le côté…
Ni l'un ni l'autre.
Qui est un exemple de Chachmé Provence ?
Il n'y en a pas.
Alors, ils sont inconnus ?
Ils sont un peu inconnus en termes d'individus. On les appelle tout le temps Chachmé Provence.
Et ils sont cités dans le Talmud ?
Ils sont cités très souvent. Le Rambam, il a pour eux un respect énorme.
Mais je ne comprends pas. Jusque dans l'an 1000... Il n'y avait plus de yeshiva en Babylone, donc il n'y avait plus d'influence.
C'est ce que je vous dis. Donc l'influence est passée dans le monde qu'on va appeler Ashkenaz. Vous savez que Ashkenaz, ça veut simplement dire Allemagne. Oui. C'est-à-dire, donc dans le monde Ashkenaz, dans le monde séfarad, puisque c'est là que les nouveaux pôles vont se lever.
C'est là que le problème a commencé entre Sfaradim et Ashkenazim, en fait.
Tout de suite, vous parlez de problèmes.
Non, ce n'est pas des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, on voit les problèmes.
Pourquoi des problèmes ?
Soit. Merci.
Oui, David.
Alors, en fait, le début de la Kabbalah, comme on la connaît, n'a rien à voir avec Eretz Israël. Il y a un rapport direct avec Israël, mais la Kabbalah ou elle-même, l'étude de la Kabbalah, le commentaire de la Kabbalah, à part le Harizal, c'est que des Chosnekim.
Et encore, le Harizal, il s'est formé toute sa jeunesse en Égypte.
Mais parce qu'il n'avait pas le choix.
Non, mais d'accord. Non, mais ça veut dire que même lui, ce n'était pas en Eretz Israël. Disons que Torah Kabbalah, elle accompagne la galoute pour nous permettre de sortir de la galoute. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on la trouve petit à petit dans toutes les époques de la galoute en galoute. Et c'est elle aussi qui va nous permettre de sortir de galoute. Et après, on va les retrouver en Eretz Israël. Puisque finalement, Torah Kabbalah, à partir de l'époque du Hari, elle va recommencer à retrouver ses lettres de noblesse en Israël. Mais on y arrivera, on a le temps.
Excusez-moi, je ne sais pas poser une question par écrit.
Excuse-moi, je n'ai pas vu.
Je me pose la question depuis tout à l'heure. Est-ce que ce point, cette Nekuda, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui a un rapport avec la Neshama du monde, du Olam ?
Mais évidemment, c'est ça. C'est de ça qu'on parle.
C'est tout, je voulais juste.
Non, c'est ça. Le Roche n'est-il pas un des sages de Provence ? Non. Le Roche était un sage qui était complètement en Allemagne et France du Nord, mais par contre, il est parti après au Maroc. Enfin, il a transité par l'Espagne et il est arrivé au Maroc. Mais ça, je ne sais pas si on va parler du Roche parce qu'il n'est pas tellement dans le monde de la Kabbalah. Mais en tout cas, le Roche a influencé énormément de Marocains en leur donnant des halakhot ashkenaz. Ça, c'est vrai.
Une question à Rav Yocheved.
Oui.
Oui, Rav, s'il vous plaît, dans quel texte le Rav Abraham Ibn Ezra explique cette...
Dans l'introduction de son, c'est dans l'introduction de son commentaire de la Torah.
Qui s'appelle ?
Pérouche à Ibn Ezra la Torah, Agdama.
Question de Meira.
Encore, par rapport aujourd'hui, est-ce que en grande majorité, en pourcentage, Combien dans les yeshivot on apprend la Kabbalah? Dans les yeshivot haridiot, certainement pas, je m'imagine.
En pourcentage, zéro.
Ils n'apprennent toujours pas la Kabbalah?
Non.
Pourquoi?
Mais je ne sais pas si c'est le rôle de la yeshiva d'apprendre la Kabbalah.
Ils n'ont même pas le livre de la Kabbalah, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas le livre non plus du Rambam, si je comprends bien, et Moreno Vorfim. Il y a encore une ignorance de ce côté-là. Et c'est un grand monde, les Haredim.
D'abord, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de livres qui n'existent pas dans le monde Haredi, et c'est dommage. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, à la question, est-ce que la yeshiva qui forme des jeunes bachourim à l'étude de la Torah, est-ce que c'est son rôle d'enseigner la Kabbalah? Je ne pense pas.
C'est le rôle de qui alors?
Des chachamim qui enseignent la Kabbalah à leurs élèves qu'ils auront choisis. Je pense que l'un des tenants pour enseigner, pour étudier la Kabbalah, enfin, je pense, moi j'y connais rien, c'est pas moi qui pense, mais de ce que j'ai reçu de mes maîtres, c'est que l'un des tenants pour pouvoir commencer à comprendre le Torah Takabbalah, c'est d'être marié.
Oui, bon, on parle de gens mariés.
Ben non, à la Yeshiva, on n'est pas marié.
Ah, Aram, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'il y a des livres que, entre guillemets, nous, nous-mêmes, dans les Yeshivas, on n'étudie pas parce qu'ils sont trop haredi ou pas chez nous? Est-ce que c'est l'inverse, c'est vrai?
Je vais te dire. D'abord, c'est certainement vrai dans les faits. De toute façon, tu peux pas tout étudier. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir s'il y a de la place pour tous les livres qui ont été écrits un jour ou l'autre dans le judaïsme. La question est de savoir, le Rav Cherki nous avait enseigné, il faut savoir reconnaître ce qui est anaf et ce qui est shoresh. Qu'est-ce qui est racine, qu'est-ce qui est central pour la transmission du judaïsme et qu'est-ce qui est en plus? Il faut étudier tout ce qui est shoresh. Après, si tu as le temps d'étudier anaf ou pas anaf, et ben c'est bien, c'est en plus. Un jour, j'étais en France pour un Shabbat. Et il y avait là-bas le Rav Eli Lemel. Et le Rav Eli Lemel, c'est un rabbin haredi, tout ce qu'il y a de plus haredi. Et j'avais avec moi un bouquin, je te montre ici, parce que je suis arrivé à la tefila le matin, Shabbat matin, et bon, nos amis français avaient du mal à se lever, donc j'attendais, j'étais en train d'étudier un bouquin que j'étais en train d'étudier, et donc je suis en train d'étudier comme ça, et le Rav arrive et me dit: mais tu étudies ça, toi? Bah oui, pourquoi pas? Bah, c'est bizarre, vous étudiez pas ça. Vous, les sionistes. En fait, c'est le livre Emouna Vebitachon du Chazonish. Alors, vous allez me dire, Chazonish, c'est Haredi. Non, non, c'est Haredi, avec des Torah. Des Torah, Meod, Meod, Hashuva. Donc, est-ce que il y a chez nous aussi des fois cette lacune-là? Très certainement. Mais c'est pas bien, il faut tout étudier, enfin, du moins tout ce qui est central. Evelyne, je crois que vous avez une question. Et mettez votre micro.
Oui, voilà. Rav, je vais essayer de la poser clairement. J'ai toujours entendu que Yerida était un niveau qui était en dehors du corps. Et là, vous dites que Yerida est une dimension qui est le point central, la Torah qui est donc dans le monde, même au centre du monde.
C'est l'essence.
Ok, donc c'est relié avec quelque chose qui est vraiment au-dessus du corps. Enfin, des corps.
C'est l'essence. C'est le point le plus profond et amiti de mon existence.
D'accord, merci beaucoup.
Alors, il reste 2-3 minutes, une dernière question pour le Rav Fizolon.
Moi, je veux une question.
Oui, c'est ça.
Voilà, merci Rav Fizot. Je reviens au centre et au point, c'est-à-dire qu'en fait, je me demandais, le rayon, c'est 6, c'est 3-14.
Excusez-moi, j'ai un rayon. Ah,
non, alors je vais doucement. Le rayon du cercle, le rayon, oui, du cercle, c'est 3-14, ou je me trompe? Alors qu'est-ce qui est 3-14 dans le cercle?
3-14, c'est pi.
C'est pi, mais il est où dans le cercle?
il est nulle part dans le cercle pi. Pi nous permet, c'est une valeur qui nous permet de calculer, de faire le lien entre le rayon, qui va varier en fonction de la taille du cercle, et le périmètre. Pour comprendre quel est le lien entre le rayon et le périmètre, on a besoin de la valeur pi.
D'accord. Alors justement, ma question...
La circonférence.
La circonférence. Je n'arrivais pas à exprimer le début de ma question. La question est que comme les décimales de pi sont infinies, comme ça part du point et que tous les points qui se trouvent dans la circonférence vont aussi d'une certaine façon être dans l'infini, et ce qui correspondrait au fait que chaque personne unique, comme vous l'avez dit pour Yoreve tout à l'heure, est reliée à ce point central et à une valeur infinie.
Je suis assez d'accord. Il y a une question ici qui a été... je suis assez d'accord avec vous, vous avez raison.
Arabe, il reste une petite minute.
Je vois que dans le chat, il y a une question qui a été posée. D'être marié, est-ce que c'est pareil pour une femme? Oui. Parce que ce n'est pas une question de homme ou femme, c'est une question de est-ce que je vis dans mon être la dimension de Ishtalmut et Shlemut. Donc maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas mariés qui arrivent à comprendre ces choses? Si, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est assez premier. Le Rav Yaakov Naon nous disait toujours, mariez-vous et ensuite vous comprendrez ce que HaKadosh Baruch Hu veut de vous.
D'ailleurs, pour les Chazanim.
תודה רבה, הרב פיזון.
חזק ברוך.